Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de recevoir ce soir Vincent Duclair, qui est historien, chercheur au CESPRA, le Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron, que vous co-dirigez avec Stéphane Morouzeau. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la Troisième République, sur Jean Jaurès, sur l'affaire Dreyfus, plusieurs livres sur le génocide arménien aussi. Hein, vous êtes devenu un spécialiste des génocides. Vous venez de publier d'ailleurs en 2023 un ouvrage qui s'intitule « Arménie, un génocide sans fin et le monde qui s'éteint » aux belles lettres. Et nous vous recevons ce soir pour la publication demain d'un ouvrage publié chez Talendier, bonne maison d'histoire. Un ouvrage qui s'intitule « La France et le génocide des Tutsis, le grand scandale de la Ve République », un ouvrage richement documenté, particulièrement éclairant sur les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis rwandais, des responsabilités lourdes et accablantes. Responsabilité lourde et accablante parce qu'il s'agit d'un soutien sans faille et jusqu'au bout à un régime dictatorial, raciste, violent et corrompu, parce qu'il met à mal, et vous montrez très bien, le fonctionnement des institutions démocratiques, à travers notamment la raison d'État, on va en parler évidemment ce soir. Une faillite de la France aussi, en tout cas, la France a failli dans son aveuglement face au processus génocidaire en cours, au point d'en favoriser le déroulement, hein, ce qui est bien montré dans ces pages. La France a failli aussi par son déni de la réalité pendant plus de 30 ans. On va parler du rapport qui est, juste avant ce livre, et de la filiation qu'il y a entre les deux. Et donc vous montrer finalement la faillite politique, morale et intellectuelle de la France sur cet épisode. Une faillite qui se doit d'être comprise et pour cela interrogée et continuer d'être interrogée par les historiens et les chercheurs. Donc cet ouvrage fait suite à ce fameux rapport de la commission Duclair que vous avez donc dirigé, commission de recherche sur les archives françaises concernant le Rwanda et le génocide des Tutsis. Un rapport qui vous avait été commandé par l'Élysée en 2019 et remis en main propre en 2021. Un rapport de 1000 pages avec 200 pages de notes, épluchant plus d'une dizaine de milliers d'archives. Et la première question que j'aimerais vous poser, Vincent Duclair, par rapport à ces deux ouvrages, c'est pourquoi est-il nécessaire de publier un ouvrage supplémentaire par rapport à ce rapport qui a été publié par Armand Collin assez récemment. Est-ce que c'est pour rendre plus accessible au grand public cette histoire du génocide Tutsi et de la responsabilité de la France? Est-ce que c'est parce que la recherche se poursuit qu'il y a des nouveaux éléments à mettre en valeur? J'imagine qu'il y a aussi un lien avec les commémorations qui vont avoir lieu en 2024. Peut-être aussi nous dire quelques mots du rapport Muse qui est arrivé juste après votre rapport en France. C'est un rapport qui a été commandité par les autorités rwandaises et qui a été élaboré en partie par des avocats américains. Voilà, donc je pense que vous voulez introduire déjà par des remerciements et ensuite peut-être commencer à répondre sur cette question des rapports entre ces deux livres, le fameux rapport et le livre qui sera publié demain.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Yannick Leribbe. L'introduction était très très informée et les questions tout à fait stimulantes. Hein. Je vais bien sûr y répondre, mais je vais d'abord faire des remerciements parce que je crois que un livre comme celui-ci n'existe que parce que une série de bonnes fées sont penchées sur lui. Hein. D'abord vous-même, la librairie Compagnie. Alors moi j'ai une certaine tendresse pour la librairie Compagnie parce que on sait que cette librairie a été achetée par Jérôme Lindon lorsque il a donc eu ce best-seller de l'Amant. Et il s'est trouvé que mon premier travail de recherche portait sur l'édition de Nuit clandestine. Et puis je n'ai pas continué, notamment parce que Anne Simonin a réalisé une splendide thèse, qui est éditée aux éditions de l'IMEC. Et puisqu'on parle édition, et bon, peut-être pour faire un clin d'œil à cet humoriste que nous écoutons tous sur France Inter avant 7h, qui que v'là, ce sont les éditions Talendier. Et bien oui, un livre n'existe aussi que parce qu'il y a un éditeur qui a fait un travail vraiment remarquable. C'est un livre qu'on a commencé il y a 3 ans, hein, juste après la remise du rapport. Hein. Je vais bien sûr expliquer pourquoi j'ai souhaité continuer. Mais on a beaucoup travaillé sur ce livre. Il y a eu plusieurs versions, du reste. Xavier de Bartilla, donc, qui dirige les éditions, donc, s'est vraiment beaucoup investi. Et vraiment, je suis très heureux de remercier Talendier. Ça a été vraiment une expérience très forte. Hein, et je trouve que matériellement, le livre est très beau. C'est exactement ce que j'imaginais. Parce qu'il faut que ce livre soit aussi un livre très accessible, parce que l'objectif, c'est de parler au public. Hein, au public, c'est-à-dire, et d'élargir la connaissance et de savoir aussi à la fois ce qui s'est passé au Rwanda, hein, et que ce génocide aurait pu être évité, même arrêté par nos autorités, par la France. Donc savoir ce qui s'est passé au Rwanda, savoir ce qui s'est passé en Afrique, et puis savoir ce qui s'est passé en France aussi, parce qu'il y a 30 ans, et on est tous, effectivement, on se souvient tous de ce que l'on faisait il y a 30 ans. Lorsqu'on a découvert ces images, on n'a pas tout à fait compris au départ, parce qu'il y avait des files de réfugiés qui, en fait, sont révélés être un certain nombre de Hutus tueurs, hein, qui fuyaient l'avancée du FPR, et puis ce génocide qui, petit à petit, donc, est apparu, mais aussi a été tout de suite nié, hein, nié par nos autorités, ce qui... Et on sait très bien qu'il était extrêmement difficile de parler du génocide des Tutsis. Le génocide des Tutsis est au programme des terminales que depuis 2 ans, hein, et qu'on a longtemps parlé du génocide rwandais, parce que c'est une manière de dire, bah oui, il y a 2 génocides. Enfin, donc c'était très très lourd, hein, c'est une histoire très très proche. Et mes remerciements vont bien sûr à la commission de recherche que vous avez mentionnée sur les archives françaises relatives au rwandais, au génocide des Tutsis, parce que il y a eu un travail exceptionnel qui a été mené par cette équipe. Hein, beaucoup des membres de cette équipe sont ici présents. Hein, et ça a été une expérience humaine extraordinaire. Et puis un aboutissement, parce qu'on a manié énormément d'archives pour obtenir effectivement donc, ce résultat publié chez Armand Collin. Et c'est précisément parce qu'il y a eu cette expérience que j'ai souhaité continuer. Continuer aussi parce que on a pu mettre la main sur des fonds d'archives finalement, d'acteurs qui prouvaient qu'il y avait une autre politique. Une autre politique était possible. Des avant-gardes courageuses, hein, il faut insister, lucides. Certains sont ici dans cette salle. Hein, Gérald Barret qui a publié 2 livres, dont un livre avec Laurent Larcher, le collègue Galinier, l'ambassadeur Antoine Anfray. Donc c'est l'ambassadeur Yannick Gérard. Donc le général Patrice Sartre, dont on attend un livre de lui, enfin, voilà. Et ça, à la fois, c'est de constater qu'il y a eu ces avant-gardes, Thérèse Pujol également, présente au Rwanda, et que ces personnes ont tenté d'éviter le pire, et ont porté une autre politique. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel, parce que l'histoire, c'est pas uniquement l'histoire de ce qui a existé, c'est l'histoire de ce qui n'a pas pu exister. Il faut expliquer pourquoi ça n'a pas pu exister, surtout dans ce cas-là, et donc de rétablir finalement la continuité historique. Et quand on rétablit la continuité historique, on rétablit aussi la conscience historique. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Et je voudrais juste terminer sur deux remerciements encore. Ben d'abord, remercier la méthode historique, d'une certaine manière, et puis les archivistes, parce que les archivistes, c'est essentiel, on le sait, et c'est grâce aux archives qu'on a pu avancer, qu'on a pu établir, et le livre présent donc remobilise les archives, à la fois les archives de la Commission et aussi de nouvelles archives. Et donc les archivistes sont présents ici, je les salue, ils sont remerciés dans l'ouvrage, hein, et vraiment, pour moi, l'institution des archives, c'est l'état de droit. Quoi. L'état de droit, et bien sûr, c'est la possibilité de faire de la recherche. Et enfin, bon, remercier mes proches, et puis des collègues comme Michel Perrault. Michel Perrault m'a écrit donc lorsque le président Macron est allé à Kigali, et elle a eu c'est probablement le plus beau message que j'ai jamais reçu de ma carrière, hein, et elle terminait sur l'Afrique, notre avenir. Et donc c'est la dernière épitaphe en fait de l'ouvrage, qui ouvre l'ouvrage l'Afrique, notre avenir.
Merci Vincent Duclerc pour tous ces éclaircissements. Je pense que on peut peut-être commencer par l'importance que joue François Mitterrand et la présidence de la République dans ce dossier et dans les responsabilités portées par la France à travers évidemment plusieurs aspects. Alors peut-être faut-il revenir au départ sur l'ancienneté des relations entre la France et le Rwanda, hein, qui est une colonie belge au départ. L'indépendance a lieu en 1962 et des rapports se tissent petit à petit entre la France et le Rwanda, mais c'est avec Mitterrand qu'une relation particulièrement proche entre deux présidents et entre le régime en place lié au coup d'État de 1973, se lie très fort, il y a une relation très forte entre deux hommes, et en venir aussi finalement au système mis en place par Mitterrand sur cette idée. Alors déjà, essayer de comprendre pourquoi la France va mettre les pieds au Rwanda, qui n'est pas une zone d'influence française classique. Que cherche Mitterrand dans cette relation, et comment finalement l'Élysée va, à travers cette notion de domaine réservé, complètement monopoliser ce dossier. Et vous pourrez évoquer aussi évidemment le rôle de l'état-major particulier de la présidence, qui court-circuite un certain nombre d'institutions et finalement le bon fonctionnement hiérarchique des institutions républicaines qui se trouvent mis à mal. Donc parlez-nous un petit peu de cette relation France-Rwanda et du rôle de Mitterrand.
Alors ça me permet justement de répondre très brièvement à la question à laquelle je n'ai pas répondu sur pourquoi un tel livre après le rapport. D'abord parce qu'effectivement, mes premiers travaux ont aussi porté sur l'histoire de l'État avec Marc-Louis Baruch. Et c'est vrai qu'avec le Rwanda, on touche à la question des institutions, du respect de la Constitution, du règlement. Et c'est extrêmement intéressant. Et tout ça, bien sûr, en plus documenté par les archives. Donc c'est certain que voilà, il y avait vraiment un devoir de ma part de continuer à agir sur ce point. Il y avait aussi le fait que dans le rapport, on a écrit très précisément que c'était des faits de vérité qui étaient établis, mais qui devaient être consolidés. Il fallait progresser. C'est-à-dire, la recherche, la vérité scientifique n'est pas définitive. Donc, il y avait une invitation, et c'est explicitement écrit dans le rapport, hein, à continuer, à ce que tous les collègues continuent. Et bon, moi, j'ai pris le rapport au pied de la lettre, d'une certaine manière. Hein. Et puis, parce qu'il me semblait qu'il fallait davantage se tourner aussi vers l'Afrique et vers ces... ces dégâts incommensurables qu'en particulier au Rwanda la France a réalisé, et en fait donc pour revenir à la question la France l'a réalisé à partir de 1990 très clairement en connaissance de cause aussi, c'est-à-dire que les alertes lancées par exemple par le colonel Galinier qui est ici présent, c'est-à-dire attaché de défense, lancent des alertes sur le fait que il faudra peut-être se préoccuper de protéger les Tutsis. C'est écrit noir sur blanc qu'il ne faudra pas effectivement faire des contrôles de police donc au port de Kigali. Tout ça, c'est des lanceurs d'alerte, très très clairement, qui le font selon une certaine éthique du service de l'État. Ils se heurtent à un mur hein, qui est la puissance en fait de la présence de la République, car la présence de la République, même sur la Ve République, n'est pas opérateur de politique, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement. Hein, du reste, c'est la Constitution. Hein, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et là, sur le Rwanda, la présidence est opérationnelle. À travers, la cellule diplomatique, l'état-major particulier, qui décide et qui exécute sur place. Alors effectivement, comme il y a des chaînes régulières qui aussi, comme l'état-major, doivent intervenir, au fond, on se retrouve avec deux chaînes d'action. Mais il y en a une qui prend le dessus. Et qui est véritablement pilotée par François Mitterrand. François Mitterrand, avant donc l'intervention militaire massive donc du 4 octobre 1990, hein, qui est quand même le moment où la France va porter à bout de bras hein, le régime.
Plus, il faut rappeler qu'il y a trois interventions. Hein. Il y a 1990, c'est l'opération Norrois. Ensuite, l'opération Amaryllis à partir de 1993. Et 1994, celle que tout le monde a entendu parler, l'opération Turquoise.
Voilà. C'est-à-dire qu'Amaryllis, bon, c'est 94 aussi. C'est-à-dire qu'il y a une phase... En fait, c'est important aussi, j'ai essayé d'approfondir ce que ma connaissance des génocides sur l'idée de processus génocidaire qui doit être un concept que Raoul Hilberg en fait a mis en œuvre, hein, qui est que il faut étudier la préparation et la France soutient un régime qui prépare un génocide. Ouais, bon. Donc c'est 90-93. Et puis après c'est 94 avec ces deux opérations, Amaryllis turquoise, et le fait qu'on est en cohabitation aussi. Donc Mitterrand est obligé de partager ses domaines réservés avec Balladur, sauf que au départ, Édouard Balladur se rend bien compte qu'on ne peut pas soutenir ainsi le régime qui a succédé à celui du président Abiy Ahmed qui a été donc tué dans un attentat. Et donc l'idée d'un peu d'une neutralité, mais très vite, en fait, l'Élysée va reprendre la main sur Balladur, alors que Balladur, lui, veut imposer la Constitution et le fait qu'il détermine et conduit la politique de la nation. Donc, en tout cas, ce qui est très important, c'est que avant même donc l'intervention d'octobre 90, François Mitterrand dit bien, hein, c'est dans une reste, un entretien, donc le 14 juillet 1990, il dit, il n'y a pas de Monsieur Afrique, Monsieur Afrique, c'est moi qui prends les décisions. Donc là, on a effectivement clairement l'affirmation que c'est bien lui qui décide de la politique. Et au Rwanda, c'est vraiment une politique personnelle et politique avec, comme vous l'avez souligné, les liens étroits avec Abiy Ahmed, qui est différent en fait des leaders et des dirigeants donc de l'Afrique de l'Ouest, hein, puisque ça n'a pas été une colonie française. Et pour répondre vraiment à la question pourquoi la France au Rwanda, c'est parce que François Mitterrand, dans son second mandat, est omnibilé par la menace américaine, qui en Afrique n'existe pas en plus, hein, mais qui apparaît comme une réalité pour François Mitterrand. Et donc, s'emparer de certaines manières du Rwanda et du Burundi, c'est faire avancer une sorte de porte-avions dans les zones d'influence anglo-américaines des Grands Lacs. Hein. Et donc, c'est étendre les pays du champ, étendre un empire, en fait, parce que François Mitterrand est aussi un homme de la 4e République et de l'Empire.
Sous prétexte aussi de francophonie et de défense de la francophonie, puisque le Rwanda est un pays majoritairement francophone.
Et alors, paradoxalement, donc celui qui va s'imposer comme le chef militaire donc du Front patriotique rwandais
ne parle pas français.
Voilà. Ne parle pas français, et donc, comme il ne parle pas français, il est forcément ennemi. Et donc, il y a un processus d'ennemisation, hein, je le développe aussi, d'ennemisation.
C'est très important, on va y revenir. Hein,
de Paul Kagame, ouais. Alors même que Paul Kagame, paradoxalement, est très bien disposé à l'égard de la France. Et on le sait, puisque Paul Kagame a des relations étroites avec l'ambassadeur, il peut être là, l'ambassadeur Yannick Gérard, donc ambassadeur de France en Ouganda, où est basé effectivement le FPR. Et en fait, Paul Kagame souhaite des négociations directes pour trouver un terme à la crise et mettre fin aussi à ce régime dictatorial que vous avez bien vécu.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que vous le montrez très bien dans votre livre, les Belges ont aussi une responsabilité dans l'ethnicisation, hein, de la société rwandaise, ethnicisation qui va ensuite être instrumentalisée et radicalisée par le pouvoir en place au Rwanda, le pouvoir Hutu, renforcée aussi par le soutien de la France. Et cette ethnicisation va continuer, hein, et va s'approfondir avec effectivement cette théorie de la démocratie, hein, c'est-à-dire que c'est un pays où il y a 85% de Hutu et 15% de Tutsi, et que finalement être démocratique, c'est finalement prendre en compte avant tout les Hutus qui sont majoritaires.
Le peuple majoritaire, c'est l'idée, le peuple majoritaire en fond a tous les droits sur les minoritaires, d'autant qu'ils sont ethnicisés, alors même qu'il n'y a pas de race au Rwanda, ni même en Afrique, en fait. Hein, mais en tout cas, au Rwanda, une même langue, même religion, même culture. Et tous ces travaux, il faut... Voilà. Moi, ce livre aussi, c'est beaucoup appuyé sur les travaux d'éminents historiens, chercheurs, Marcel Cabona, qui est ici présent, Jean-Pierre Chrétien, dont on va publier, là, au bord de l'eau, là, au mois de mars, tous les textes donc où il alerte sur le processus génocidaire. Et effectivement, les Belges sont responsables, sauf que les Belges, quand même, deux mois après l'intervention des Français, donc des forces de combat, donc le 4 octobre 1990, les Belges quittent militairement le Rwanda, parce qu'ils ont compris que ça allait très mal se finir. Et la France, et surtout la France, les autorités françaises, hein, se pensent plus intelligentes que dans le monde, et effectivement, interviennent massivement. Et donc, c'est l'opération du roi, mais c'est aussi l'opération Schinner. C'est toute une série de damis, c'est-à-dire effectivement des détachements qui sont sur la ligne de front, dont on se demande si effectivement, en formant une armée pléthorique, ils ne sont pas en train de former des ministres.
Et c'est là où finalement, on dépasse le cadre réglementaire, aussi justement dans cette question de la coopération, hein, la coopération militaire en particulier, entre le domaine d'engagement direct, celui direct, indirect, ce qui pose la question effectivement de l'appeler le scandale de la 5e République, c'est qu'il y a toute une série de détournements des institutions qui posent problème. qu'on peut résumer sous le concept de raison d'État, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus, à travers finalement le fonctionnement de la présidence, la chaîne de commandement, et finalement le fait que le Quai d'Orsay est écarté, le ministère de la Défense est écarté, Matignon est écarté, et que finalement tout passe en ligne directe sur la ligne Paris-Bayonne-Kigali.
C'était effectivement les schémas de communication qu'on a identifiés donc, pour le rapport, et qui en fait montre voilà, ce pilotage opérationnel depuis l'Élysée avec la résignation d'une certaine manière de l'état-major du ministère de la Défense qui, Pierre Joxe, s'est battu. Vraiment, on sent bien que Pierre Joxe irrite beaucoup à l'Élysée, hein, il y a des tensions très très fortes et tout ça c'est dans les archives. Et en fait, Pierre Joxe, et c'est là où les archives sont importantes, Pierre Joxe a perdu tous les arbitrages. Que fait-il? Simplement, il va verser ses archives, archives de son ministère, de ses cabinets, et archives privées. Ils sont au service historique de la Défense, et là, ces archives sont très bien classées, parce qu'il se dit, peut-être qu'un jour, les historiens vont voir ces documents. Et donc, nous, on a pu les voir, et on a pu établir des choses extrêmement importantes, qui montrent bien qu'il y a des conflits extrêmement forts entre, disons, une chaîne régulière, qui est celle des institutions, qui est celle du respect de l'état de droit, de la pratique des institutions, et puis, et bien effectivement, quelque chose d'arbitraire, donc porté par la raison d'État, qui s'impose à l'Élysée. Et là, de ce point de vue-là, j'ai accumulé de nouvelles preuves dans l'ouvrage. On a retrouvé aussi davantage de documents émanant du secrétaire général de la présidence, ce qui fait l'interface entre Mitterrand et puis ensuite...
Hubert Vézerine, on va le dire.
Oui, pour ne pas le citer. Mais enfin, on le prend comme
c'est un secrétaire général.
Oui, non, vous avez très bien fait. Mais on s'intéresse au système, si vous voulez. C'est un système qui est développé à l'Élysée et qui va perpurer à la fois... Donc, pendant la cohabitation, il y a quand même le discours de Biarritz, qui est incroyable, de François Mitterrand faisant ses adieux à l'Afrique et disant que la France n'est pour rien si des chefs de tribu règlent leur compte à coups de machette. Donc ça dit quand même beaucoup de choses sur la manière dont ils pensent l'Afrique, dont ils présentent le génocide des Tutsis. Hein, bon. Et puis après, ce qui se passe à partir de 1995, c'est-à-dire le déni que François Hollande n'a pas réussi à briser. Hein. Parce qu'il avait un peu des intentions de faire une commission, mais ça n'a pas marché. Hein, et puis que Emmanuel Macron a voulu installer, mais ça n'a pas été facile. Hein. Nicolas Sarkozy, du reste, a tenté, il fait un voyage à Kigali en 2010, mais en fait, en gros, ça ne suit pas derrière.
Et qu'on comprenne bien aussi, pour revenir sur l'engagement militaire français au Rwanda, la manière dont finalement cet engagement a favorisé le génocide, dans la mesure où les Français prenant en charge la défense nationale du territoire sous la menace de l'intervention Ougando-Tutsi, hein, on va revenir sur cette théorie un peu du complot d'une certaine façon, et finalement ce rôle des Français va permettre à l'armée régulière rwandaise et aux milices de finalement tranquillement avoir les mains libres pour pratiquer ce massacre.
Alors déjà, nous, ce que je pense que c'est important, et moi je l'ai réinstallé dans le livre, notamment à propos de ce qui se passe à Bicécéro pendant l'opération turquoise, les militaires obéissent aux ordres. Donc on n'a pas des militaires factieux comme lors de la guerre d'Algérie, hein, avec les cartons de généraux. Ils obéissent aux ordres, et ils sont de plus en plus mal à l'aise par rapport aux ordres. Hein, on le voit bien, je veux dire, la question, l'engagement semi-direct, tout ça, ils se rendent compte qu'ils sont co-belligérants face à un adversaire, le Front Patriotique rwandais, qui n'est pas, en fait, ougandais. Du reste, le colonel Galigné démontre bien qu'il n'y a pas de preuve massive de l'intervention ouganda derrière les attaques. Il y a le fait que ils ne sont pas non plus Tutsis, puisque le Front Patriotique rwandais, c'est un mouvement politique de lutte armée, hein, de lutte armée, de lutte politique. Hein. Donc il y a des Tutsis exilés, mais il y a aussi des
Hutus de l'opposition.
Oui. Enfin, oui. Mais pourquoi il y a ce schéma-là, Ougando-Tutsi, qui va ensuite aller vers les Khmers noirs, donc l'ennemisation du FPR, c'est parce qu'il faut justifier de la présence militaire française, puisque elle ne peut s'expliquer que parce qu'il y a menace contre un État souverain. Mais en fait, c'est, je veux dire, c'est une menace rwandaise contre un régime dictatorial. Donc, mais ça, ça ne peut pas être dit, parce que dans ces cas-là, il faudrait retirer les troupes françaises, qui, là, interviendraient dans des situations justement intérieures. Donc, le poids des militaires, plutôt le développement, la mobilisation de ces unités de combat, des forces spéciales qui sont au Damis, enfin, il y a quand même, à un moment donné, il y a près de presque 1000 hommes en début 93. Ensuite, il y a effectivement tout le contingent turquoise. Bon, là, c'est quand même différent, puisqu'il ne cautionne pas le régime. Mais jusqu'en 93, effectivement, vous l'avez très bien dit, je veux dire, ils font deux choses. D'abord, ils donnent du crédit à Abiy Ahmed, qui est quand même, je veux dire, lui-même est quand même extrêmement anti-Tutsi, son entourage l'est encore plus, et donc aux yeux des sociétés rwandaises, eh bien, de voir effectivement une garde prétorienne, c'est-à-dire quand même les militaires français, dire qu'ils sont déployés là, c'est quand même des unités de combat ou des forces spéciales extrêmement puissantes, donc le régime est cautionné complètement, et comme vous l'avez très bien dit, ça décharge les forces armées rwandaises, eh bien, véritablement de se former et de défendre le territoire, et donc ces forces se transforment en forces génocidaires. Radicalisation des forces armées rwandaises, c'est alerté par le successeur notamment du colonel Galinier, le colonel Cusac. Mais vraiment là, je pense que, et pour revenir sur la France, alors qu'on prédisait, et lorsque nous on a commencé le rapport, les armées avaient très peur parce que c'était, ça y est, le procès allait être intenté en plus par un historien de l'affaire Dreyfus, vous voyez. Et en fait, pas du tout. Du reste, il y a des gens qui ont dit oui, le rapport de la commission blanchit les armées. Bon, ce qui est en partie vrai, parce qu'effectivement, les armées, non seulement ont tenté à travers un ensemble de cadres d'alerter, hein, et justement, dans le livre, je reprends tous ces documents.
Oui, c'est une partie importante du livre.
Non, mais c'est ma femme les appelle, elle est américaine, elle appelle les good guys. Bon, voilà, c'est. Ben oui, quand même, oui, on peut quand même aussi se dire qu'il y a des gens qui ont bien agi. Et puis, comment effectivement tout ça a été broyé par la puissance, en fait, du pilotage, enfin, du pouvoir de l'Église.
Alors, on voit toute l'ampleur de la question morale aussi, hein, de s'engager aussi durablement en soutien d'un régime aussi épouvantable. Mais surtout, ce qu'on constate dans le rapport et puis votre ouvrage, c'est que c'est une relation à sens unique, dans le fond. La France n'y gagne pas grand-chose. À partir des accords d'Arusha, vous pouvez sortir par là si vous voulez. Il y a une petite porte, vous pouvez la franchir. Vous vouliez partir discrètement, c'est foutu. Oui, à partir des accords d'Arusha, le Rwanda, enfin le régime d'Habyarimana, est censé s'engager dans un processus démocratique. La société rwandaise a évolué, commence à évoluer, il y a un terreau possible à labourer, je dirais, hein, sur le plan démocratique, mais en gros, on voit à quel point, finalement, le régime d'Habyarimana, et vous montrez très bien dans votre livre, c'est qu'il lui aussi est un petit peu manipulé par son entourage, hein, les Hutus du Nord, sa femme, qui sont extrémistes, véritablement, et qui manipulent un peu le jeu. Mais on voit finalement ce processus démocratique ou de démocratisation est une sorte d'épouvantail et que, dans le fond, le régime continue sa radicalisation et que finalement, ses engagements ne sont pas tenus. À aucun moment. Donc finalement, la France ne gagne rien. D'ailleurs, c'est une défaite, c'est une catastrophe pour le Rwanda, mais une défaite pour la France.
Alors, c'est ce que moi, je m'efforce dans le livre, effectivement, de reprendre un peu donc ce que vous venez de dire, en m'appuyant aussi voilà, sur toute une série de travaux. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, par exemple, vous avez ici Jean-François Dupaquier et Laurent Larcher, c'est que leurs ouvrages aujourd'hui sont très importants. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1994, ou même avant pour Jean-François Dupaquier, ils écrivent, hein, Laurent Larcher, on a retrouvé son article du 30 août 1994 dans La Croix. Voilà, donc j'aurais vraiment bien dire que il y a quand même aussi des gens courageux qui ont méthodiquement, fait cette histoire, alors même que, écrire dans les années 1995-2019, c'était pas facile. Trouver des éditeurs, toi, c'était pas facile. Donc,
c'est une partie très importante dans votre livre. Hein, comment le monde civil, le monde politique, le monde militaire, finalement, se mobilise aussi en partie. Hein, c'est des individualités, mais je pense à Patrick de Saint-Exupéry gens comme ça qui vont, dès le moment du génocide et du début du génocide, vont se manifester pour tirer la sonnette d'alarme.
Et d'une certaine manière, Jean-Pierre Chrétien, qui est ici très actif, hein, a parlé lors du colloque qu'on avait organisé là en septembre, il a mentionné l'affaire Dreyfus, parce qu'effectivement, on est quand même un peu dans le cadre d'affaire Dreyfus, c'est pas un État monolithique, c'est pas la France qui... il y a des déchirures considérables au sein de la France, et aussi l'obstination quand même de personnes qui... les époux Gautier aussi, qu'il faut citer, et bien d'autres, hein, qui ne vont jamais se fatiguer, parce que 30 ans, c'est très long, quand même. Enfin, moi, je leur tire mon chapeau, parce que la défense de la vérité, ça a du sens aussi. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a beaucoup de leçons qu'on doit retirer de cette histoire. Mais pour revenir sur les événements proprement dits, les accords d'Arusha, et là, c'est, je pense, aussi un apport de mon livre, c'est que... effectivement, les accords d'Arusha, c'est aussi le grand narratif des proches de François Mitterrand qui disent « mais pas du tout, on n'a pas du tout soutenu un régime, la preuve, on a porté les accords d'Arusha ». Alors, les accords d'Arusha, ce qu'il faut préciser, c'est que la France de l'Élysée n'est pas vraiment favorable parce que ça dépouille Abiy Ahmed de son pouvoir. Or, justement, le schéma, c'est quand même que François Mitterrand à Abiy Ahmed, cette relation directe, qui a bien été étudiée dans le rapport. Donc, l'Élysée n'est pas favorable à Arusha, comme Abiy Ahmed n'est pas favorable à Arusha. Mais comme un gouvernement démocratique d'opposition, et là, il y a aussi une histoire, le Rwanda va connaître 2 ans, un peu très chaotique, mais de vie démocratique. C'est assez étonnant, il y a beaucoup d'archives, on a pu en mettre grâce aux archives diplomatiques. Donc en ligne. Mais ce qu'on a découvert quand même, hein, c'est que, au fond, on dit à Abiy Ahmed, on vous protège quoi qu'il arrive. Ça veut dire, en gros, vous pouvez torpiller les accords d'Arusha, on vous soutiendra toujours. Donc là, c'est là où, effectivement, par exemple, la France envoie des émissaires aux partis d'opposition, au gouvernement d'opposition, en leur disant, maintenant, il faut choisir entre Abiy Ahmed ou la guerre. La guerre, c'est-à-dire le FPR. Donc ils sont poussés à l'extrémisme. Ouais, c'est ce qui va se passer. Les partis démocratiques se fissurent et donc basculent du côté de l'extrémisme et donc se retrouvent dans le génocide. Et donc là, le discours, vous voyez, angélique qui veut dire, voilà, nous on a tout fait et puis maintenant on nous accuse effectivement d'avoir cautionné le génocide, ne tient pas parce que la France n'a pas soutenu comme elle aurait dû le faire les accords d'Arusha. Et la preuve, du reste, c'est que les négociateurs des accords d'Arusha, c'est-à-dire les ministres d'opposition, hein, comme le ministre des Affaires étrangères, donc qui sont visés par les premiers massacres, puisque c'est les Tutsis qui sont tués, mais aussi les Hutu-démocrates, la France a les moyens de les exfiltrer par l'opération Amaryllis, et ils vont mourir. Donc je crois que là, on a une belle histoire, mais qui ne tient pas effectivement face aux archives.
Alors la question centrale quand même de cet ouvrage, c'est les raisons finalement d'un tel aveuglement, d'un déni hein, qui s'est poursuivi pendant 30 ans, et qui pose la question, je dirais, de la relation entre le politique et le statut de la connaissance, parce que dans le fond, il y avait de grands spécialistes du Rwanda, de ces parties de l'Afrique qui connaissent exactement la réalité hein, de ce qui s'y passe. On a parlé de tous les lanceurs d'alerte. Comment expliquer finalement cet aveuglement, ce trou noir cognitif, d'une certaine façon, qui amène les autorités françaises à ne pas voir ce qui est en train de se dérouler?
Alors là, c'est une question très importante aussi par rapport... c'est-à-dire la culture historique et juridique des responsables politiques, des hauts fonctionnaires, qui effectivement, qui existent, où ils ont tous les moyens, grâce en particulier à des chercheurs. En fait, le Quai d'Orsay mobilise des chercheurs du CNRS, par exemple, pour les éclairer. Mais en fait, après, toute cette connaissance, elle ne sert à rien, elle est même suspectée. Hein. Le reste, le jeune rédacteur Rwanda, qui est aujourd'hui ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, a une note d'évaluation 1991 où on oppose le fait que pour être un bon diplomate, il ne faut pas être chercheur. En gros, bon chercheur, mauvais diplomate. Et ça, c'est très troublant, parce que précisément ce qu'on a vu à travers la qualité de ces avant-gardes qui alertent, c'est précisément leur capacité d'analyser, d'enquêter, dans cette qualité en particulier sur le terrain. Les militaires sur le terrain sont très bons pour observer ce qui se passe. Et donc, là, on a fondamentalement une question de la connaissance. Et c'est pour ça qu'il y a de la raison d'État aussi, parce que ce qui se passe et le refus absolu de considérer toutes ces données, des données internes à l'État, des données externes, c'est-à-dire il y a notamment un grand rapport de la FIDH, de la Fédération internationale des droits de l'homme, piloté par Jean Carbonnard, et tout le monde se souvient de ce qu'il va dire en janvier 1993 à Antenne 2, enfin, c'est un moment extrêmement fort où il dit bien « Notre pays peut changer les choses au Rwanda parce que se prépare un génocide ». Donc tout ce savoir-là, il est vraiment écarté. Et c'est là où il y a la raison d'État, parce que la République s'est quand même construite sur les savoirs. Il y a la République savante, même. Je veux dire, lorsque Jean-Luc Rémy-Brillac revient de Londres, eh bien, il va créer la documentation française, vous voyez. Donc c'est pas rien. Et c'est là où on touche à la raison d'État, parce qu'on a effectivement un système qui va à l'encontre aussi des héritages démocratiques de la France républicaine.
Mais est-ce que, et d'ailleurs c'est ce que montre Stéphane-Audouard Rousseau, que vous citez vers la fin du livre, est-ce que finalement le problème c'est pas aussi une vision impériale complètement désuète, avec une vision de l'Afrique et des schémas géopolitiques et ethniques complètement dépassés aussi, est-ce qu'on n'applique pas comme ça des vieux schémas post-coloniaux ou coloniaux sur une réalité qui est totalement différente. Il y a aussi la question, effectivement, de cette ennemisation du FPR. Et puis la théorie des guerres interethniques africaines, hein, c'est une litanie sans fin. Hein, voilà, bon, bah, ils s'entretuent, c'est normal, c'est l'Afrique.
Voilà. Oui, c'est un peu l'idée que l'Afrique n'est pas assez civilisée pour qu'un génocide se réalise. Quoi.
Un continent sans histoire.
C'est ça. Ouais. Alors même que je veux dire, il y a une organisation du génocide qui est très très sophistiquée. Je veux dire, la manière dont les forces armées rwandaises se radicalisent, s'organisent, il y a des chaînes parallèles en permanence, tout se dédouble au service de l'extermination. C'est pour ça que la comparaison, et du reste Raymond Kerwoquian qui vient de partir, a fait un texte dans Le Point la semaine dernière sur la comparaison des génocides. Le génocide des Arméniens, le génocide des Juifs d'Europe et le génocide des Tutsis du Rwanda sont tout à fait comparables au niveau de la mécanique, hein, et de l'organisation des pouvoirs. Donc François Mitterrand, effectivement, a une vision de l'Afrique, a ce projet impérial d'élargir les pays du champ, ce qui est quand même important parce que plus on élargit les pays du champ, donc notamment africains, plus on a des voix à l'Assemblée générale des Nations Unies, hein, plus on compte. Hein, donc il y a ça. Il y a aussi le fait, alors à la décharge, on le sait, peut-être de François Mitterrand, pas de François Mitterrand, mais plutôt de ceux qui l'ont accompagné, notamment les diplomates, hein, donc qui sont d'abord effectivement au service de la politique décidée, mais qui se disent, voilà, en fait, on a beaucoup investi au Rwanda. Le Rwanda reçoit énormément d'argent qui va servir à l'armement, alors même que le Rwanda est dévasté par le sida, on oublie ça en fait, hein, mais c'est, je veux dire, il y a des besoins en coopération très importants, donc on déverse beaucoup d'argent, beaucoup d'armement, des sessions gratuites qui échappent du reste à tout contrôle. Hein. Donc le Rwanda, du reste les coopérants, on le dit, sont les Français les mieux protégés du monde, parce qu'en gros il y a un militaire pour deux coopérants, enfin bref, c'est... Donc il y a vraiment... et donc, d'une certaine manière, on ne veut pas perdre les acquis de l'investissement. Donc on persiste, vous voyez. Donc ça, je dirais que c'est assez humain en politique. Mais au-delà de ça, il faut voir effectivement ce que vous avez dit sur donc l'obsession anti-américaine de Mitterrand qui se réalise aussi en Bosnie, en Russie, face à l'Allemagne. Donc on est dans ces schémas-là et l'idée que la puissance de la France doit s'incarner en Afrique à travers notamment la francophonie, qui est un dévoiement terrible de la francophonie aussi. Hein,
Alors, où en est aujourd'hui le travail mémoriel commun entre la France et le Rwanda? Quels sont les grands chantiers de recherche encore sur ces sujets, hein, puisqu'il y a des archives qui n'ont pas encore été défrichées, il y a des trous aussi, hein, dans certaines séries d'archives. Quels sont les grands chantiers de recherche sur le sujet?
Alors avec la commission, donc on s'est constitué en équipe de recherche, on a continué après la remise du rapport, hein, on a fait de sessions de colloques, et on a beaucoup travaillé sur les archives, avec les archivistes, hein, je tiens vraiment encore à les remercier, parce que voilà, le travail qui a été réalisé, et ce que moi j'ai ensuite fait dans le livre, c'est voilà, de montrer l'importance des archives, aussi de montrer que les archives c'est des séries, que les archives restituent aussi, le commandement restitue, et que la conservation des archives, il y a une histoire, les archives pas naturelles, il y a une histoire du versement, il y a une histoire des disparitions, il y a quand même des trous tout à fait problématiques, hein. Jean-Christophe Mitterrand, le fils de François Mitterrand, qui est conseiller des cellules africaines jusqu'en 91, eh bien, il n'y a pas d'archives. Ouais. C'est l'état-major particulier, il y a juste les notes à François Mitterrand. C'est problématique, vous voyez. Donc,
il y a aussi les ordres à la voix, hein, voilà, on n'en a pas parlé. Sûr,
ouais. Les ordres à la voix, c'est ceux de François Mitterrand. Les ordres à la voix, c'est terrible, parce qu'au fond, on transfère sur le subordonné la responsabilité. Ouais. Et c'est pour ça que Pierre Jeux disait, tout doit être écrit. Il proposait que François Mitterrand, que les communications téléphoniques de François Mitterrand avec les chefs d'État, eh bien, soient transcrites. Ce qui est effectivement. Donc, tout ça, je pense, c'est tout à fait important de continuer. Et donc, du reste, il faudrait même envisager toutes les archives relatives à l'Afrique dans les fonds français. C'est vraiment essentiel. On l'a fait un petit peu sur le Rwanda avec les archives diplomatiques. C'est un enjeu majeur parce que c'est vrai quand même que. Oui, le fond, ce que moi je montre notamment sur la guerre contre-révolutionnaire, sur la raison d'État, d'autres l'ont écrit auparavant. Mais c'est vrai que c'était plus de l'analyse déductive. Ce que j'ai essayé de faire, c'est quand même d'arriver avec des archives supplémentaires que j'ai retrouvées, que j'ai documentées. Donc c'est essentiel. Donc effectivement, il faut armer la recherche avec les archives. Hein, et c'est. En fait, en établissant les faits, à mon avis, qu'on est capable ensuite de mieux interpréter. Bien sûr, l'histoire est une science de l'interprétation, mais qui doit quand même se fonder sur un établissement méthodique des faits. Et ça, on le fait grâce aux archives qui, quand même, ont une force probatoire incontestable. Et du reste, intéressant, parce que Hubert Védrine, par exemple, lorsque le rapport est sorti, puis j'imagine que le livre a aussi suscité des réactions très vives des proches de François Mitterrand, ne reviennent pas sur le fond. C'est-à-dire ils redéveloppent le narratif, notamment d'Arusha, et du fait que c'est scandaleux de s'attaquer à la mémoire d'un homme décédé. Donc, pour revenir sur les archives et sur le rapport MUSE, puisque vous m'avez parlé du rapport MUSE, le rapport MUSE est donc le rapport qui a été fait à la demande du gouvernement rwandais, et c'était très important que ce rapport, parce que pourquoi est-ce que seul, disons, un Français devait faire effectivement l'histoire de la France au Rwanda? C'était très important que. Et moi, j'ai
l'histoire à parts égales.
Oui, bah, tout à fait. Non, mais absolument. Alors, c'est vrai que, bon, c'était des avocats américains, mais bien pilotés par des gens au Rwanda. Bon, c'est pas piloté, disons, accompagné. Donc, le rapport MUSE a exploité des archives découvertes notamment par un des conseillers de Paul Kagame. Hein, et on voudrait bien. Voilà, le Rwanda s'est engagé aussi à mettre en ligne toutes ces archives. Et nous, on travaille de notre côté pour que la 30e commémoration soit le moment d'une poursuite de la recherche. C'est ça, au fond, l'objectif. En tout cas, nous, hein, bien sûr, on peut se féliciter de ce qui s'est passé en 2019, c'est-à-dire voyage d'Emmanuel Macron, le discours quand même qui est très fort. Hein, bon, il y a quelques clauses de style, mais globalement, il vient reprendre nos conclusions. Je veux dire, il rappelle que la France a cautionné effectivement un régime raciste. C'est essentiel, parce que là, il brise complètement tout ce qui se disait au sein de l'État depuis 30 ans. Donc nous, on est très contents. Je pense que tous les Français peuvent se réjouir du fait que la paix existe. Mais plus que la paix, il y a une relation très forte maintenant entre les deux sociétés. On l'a bien vu quand on a fait un colloque, notamment. C'est très, très bien, c'est très important. Mais de notre point de vue, voilà, il faut que la recherche continue. Et la recherche, elle continue d'abord grâce aux archives. Et il faut que les archives, elles soient collectées, conservées, que les inventaires soient mis en ligne, qu'on sache comment y accéder. Enfin, voilà, des éléments un peu techniques, mais qui permettront d'accélérer la recherche. Et la recherche, justement, la recherche ensemble, et le numéro là, du genre humain, là, qui avait été donc demandé par Maurice Hollander, hein, qui était le directeur du genre humain et grand éditeur au Seuil, c'est une écriture commune de l'histoire, quoi. C'est ouvert par Joseph Sanguimana, qui est un grand historien littéraire, et puis passé par Liberata Gangaire, qui est une jeune et brillante historienne du Rwanda. Donc c'est là où et je pense que il y a des progrès possibles et qu'on atteint justement ces zones de progrès.
Merci Vincent Duclair pour cette conversation. On va passer aux questions du public. À vous la parole. Est-ce que quelqu'un veut s'emparer du micro ? Non ? Ah !
Merci beaucoup. Corinne de France, j'aurais deux questions. Je vous demandais le rapport Muse. Quelles sont les archives nouvelles par rapport à celles que tu as pu voir avec ta commission qui ont été traitées pour ce rapport ? Et ensuite, à l'issue de la publication du rapport de la commission, est-ce que l'opinion du grand public, pas de la communauté scientifique ou universitaire, a véritablement changé sur le Rwanda ?
Alors, les archives Muse, alors, en fait, le rapport Muse traitait du même sujet, sauf que Muse allait, donc ça n'arrêtait pas en 1994, et allait jusqu'à nos jours. Donc là, ils ont pu effectivement analyser le processus du déni, et puis comment est-ce que. Parce qu'il y a quand même eu des choses absolument terribles, hein, je veux dire, l'instruction Bruguière, même la mission qu'il laisse, hein, de l'Assemblée nationale, où le rapport établit des choses confondante, hein, au fond que nous on a réétabli, et puis la conclusion, ça, ben non, la France a une responsabilité dans ce qui s'est passé, et puis c'est les Rwandais qui ont et les Nations Unies, sauf qu'on oublie que les Nations Unies c'est d'abord le Conseil de sécurité qui est formé effectivement de membres permanents, donc bon, c'est un peu voilà. Donc ils étudient ça, et alors en fait ils ont mis la main sur des archives qui sont en note, hein, donc on les voit, en fait qui sont des, c'est très intéressant parce que c'est des archives rwandaises. Exposant des réunions avec des militaires français. Donc on a le versant rwandais de la coopération militaire. C'est tout à fait passionnant. Il y a aussi un document, mais en fait, alors moi j'ai pu en avoir communication, qui est le fameux texte que Jean-François Dupaquier a retrouvé, analysé sur la définition de l'ennemi. Sauf que c'est le texte qui existe déjà. Il n'y a pas d'avantage parce qu'on sait qu'il manque quelques pages. Bon, voilà. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien effectivement accéder à ces archives parce que ça compléterait effectivement les nôtres. Et puis News a été effectivement assez malin parce que nous on est sortis le 26 mars et le 26 mars on apprend que les Rwandais préparent un rapport, ce qui était très bien. C'est un petit peu affolé quand même. Hein. Bon, moi j'ai trouvé que nous on était ravis effectivement que. Voilà, qu'on ne soit pas les seuls. Hein. Et donc, ils ont publié leur rapport 3 semaines après. Ils ont eu le temps, effectivement, d'exploiter ce que nous, on avait trouvé dans leur rapport. Bon, nous, on n'a pas pu faire ça. Bon, c'est pas très grave. Ta deuxième question, c'est... Ah oui, la manière. Je pense quand même que... Voilà, il faut rendre hommage aussi aux journalistes, hein, Laurent Larcher, Le Travail du Monde, tous les médias, Africa Arabia, au moment de la remise du rapport. Hein, c'est-à-dire que là, quand même, ça a été bien porté, c'était très important. Hein. C'est vrai que le rapport est très gros. Hein, le général Sartre m'a dit qu'il faut faire un executive summary. Hein, donc, bon, j'ai essayé de faire un executive summary qui est un peu gros quand même.
Il y a beaucoup de notes quand même.
Oui, il y a beaucoup
donc
de notes.
Ça va. Hein. Oui. 500 pages. Ouais,
Et puis bon, ça a été bien relu par le staff de Talendier, donc c'est plutôt bien écrit. Mais le rapport est très bien écrit aussi. Hein. Moi, je vous conseille le rapport, franchement, par des grandes plumes. Hein. Je pense quand même que... Oui, des choses se sont produites, quand même, vraiment. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde promettait, voilà, un moment de repentance, un moment de conflit, de guerre des mémoires. En fait, ça ne s'est pas produit, finalement. Il y a eu une espèce de soulagement. Tout le monde sentait bien que c'était quand même une affaire très, très, très sordide, hein, ce qui s'était passé à l'Elysée avec le Rwanda. Donc, il y a une espèce de soulagement. Mais l'idée aussi de vouloir un peu tourner la page assez vite. Donc, c'est pour ça aussi que Moi, je pense que la 30e commémoration, il faut quand même reparler, c'est très important. Il y a aussi bon, le très beau livre, le convoi là, qui vient de sortir, d'une rescapée. Il y a plusieurs, bon, ce qu'a écrit Laurent Larcher sur le génocide expliqué à ma fille. Voilà, il y a quand même, et c'est important qu'on en parle, je crois. Ce qui change beaucoup les choses aussi, et ça, c'est un impact jupitérien, on peut dire, parce que normalement, pour mettre des programmes scolaires, se font de manière très très méthodique avec un Conseil national des programmes, tout ça. Et bon, et en fait, dans la lettre de mission qui a été rédigée par un jeune et talentueux diplomate qui est dans la salle et qui deviendra certainement ambassadeur de France bientôt, la lettre de mission est excellente. Et en fait, dans la lettre de mission, il est écrit que le génocide des Tutsis sera dans les programmes scolaires. En fait, c'est Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui signe la lettre de mission, ça veut dire qu'il décide. Et ça, c'est extraordinaire, parce que, bon, bah, tout de suite, effectivement, ça a été dans les programmes scolaires. Et moi, je le vois, c'est que, je veux dire, dans les lycées, hein, bah, franchement, ça change énormément. Les élèves, les professeurs sont très intéressés par le sujet. Et là, je pense que, et du reste, la dernière phrase de mes remerciements, hein, c'est pour la jeunesse, parce que voilà, il n'y a que la jeunesse qui permettra de faire un monde meilleur, et que peut-être justement de lutte contre les génocides à partir d'un examen très méticuleux de ce qui s'est passé pour le Rwanda.
Une autre question, monsieur.
Bonsoir, je ne sais pas si j'ai une question. Juste un mot, merci Vincent. Et aussi à l'équipe de la commission qui a fait un bon travail. C'était pas gagné. Vous n'êtes pas parti sur. Il n'y avait pas le vent qui vous n'étiez pas porté par un vent qui allait qui poussait de derrière. À la fin, à l'issue de votre travail que vous avez fait en plus pendant la période la plus difficile parce qu'il y avait le Covid. Bon. Mais en tout cas, nous sommes très contents. Je m'appelle Marcel Kabanda, je suis historien, je suis aussi président de l'association Ibuka France. Donc, nous travaillons depuis longtemps sur des questions de mémoire, avec beaucoup de difficultés, parce que en France, parler du génocide des Tutsis, parfois nous avions le sentiment de trahir le pays qui nous avait accueillis. C'était quand même assez difficile de parler du génocide sans parler de responsabilité. Et chaque fois qu'on parlait de la mémoire du génocide, on avait le sentiment de désigner des coupables. Et c'était donc assez compliqué. Donc avec ça, nous nous sentons, nous avons cette fois-ci le vent derrière nous qui nous pousse vers l'avant. Maintenant, j'ai vraiment une question parce qu'elle nous est posée. En fait, personne ne comprend la différence entre responsabilité accablante et pas de complicité. C'est vraiment difficile. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Vous êtes responsabilité accablante, mais vous n'êtes pas complice. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité. J'ai une question alors qui est très ancienne. Ce rapport de la France au Rwanda, de la France au génocide et de la France au Tutsi. Pourquoi se laisser faire? Pourquoi avoir ces éléments d'information sur la situation rwandaise, sur les risques, sur les menaces, et quand même ne rien faire? Est-ce que ça suffit? Effectivement, c'est anti-américanisme, parce que pour la défense de la francophonie, les Tutsis, ceux qui sont morts, c'était des francophones. Le résultat, c'est que la francophonie est morte, par le génocide même. Ce qui fait que ceux qui faisaient la promotion de la francophonie devraient plutôt dire qu'au fond, c'est eux qui ont été les fossoyeurs de la francophonie dans cette zone-là. Ou est-ce que c'était pour dire les Africains, on s'en fout. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de raison d'État, mais en plus de la raison d'État, une sorte de mépris pour les Noirs?
Merci Marcel Kabanda, donc qui est, comme il a dit, historien, président d'Ibuka France. Donc, c'est important parce que c'est l'histoire et la mémoire. Hein. Je crois que et c'est très bien que les historiens, à la fois travaillent avec les mémoires, se préoccupent de la mémoire. Il n'y a plus cette cette division hein, qui a été à un moment donné...
La question de l'historien et du juge.
Oui, aussi. Alors, justement, je vais y venir. Donc, je vais venir justement sur, sur ces fameuses conclusions du rapport. En fait, on a écarté la complicité parce qu'on d'abord, on l'a, et je parle sous le contrôle du professeur Hochmann, en fait, on a considéré la complicité, d'abord du point de vue de ce qui est connu de nos concitoyens, c'est-à-dire, eh bien, quand la France a commis l'irréparable, c'est-à-dire le soutien à la solution finale, à la complicité, donc, eh bien, exposée par le président Chirac, hein, lors du discours du Veldiv du 16 juillet 1995. Donc, et en fait, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, c'est une vision, d'abord, c'est pas une vision juridique de la complicité, une vision très, très restrictive. On dit, dans les archives, il n'y a aucune archive qui dit que, eh bien, la France s'associe à l'entreprise criminelle de destruction des Tutsis. Voilà. Je veux dire, on n'a pas du tout fermé la porte au travail des juges. Simplement, on n'est pas des juges. Donc, on a considéré que la complicité, pour nous, c'était effectivement la loi. Enfin, les historiens ont le droit quand même de se donner un concept qui est celui de complicité, de dire, ben voilà, en comparaison, parce que c'est ça, l'histoire travaille en comparaison d'eux. Et les responsabilités, là, c'est une notion qu'on estimait plus historienne pour établir donc les faits. Maintenant, chacun travaille avec ses objectifs et dans son monde. Au fond, juge et historien se rejoignent sur le fait qu'il y a un établissement des faits nécessaires. Donc il y a une documentation qui doit être produite. Bref, vous voyez les jugements, là, ça renvoie à des codes de documents. Donc, en fait, ce qu'on a fait, ce que le rapport a fait, ce que je fais là, c'est de livrer de l'information au public. Et dans le public, il y a des juges. Bon, maintenant, que les juges veulent effectivement travailler sur la production documentaire qu'on a réalisée, libre à eux. Mais nous n'étions pas des juges, et donc nous avons essayé d'être le plus exact, en fait, dans les constats. Mais encore une fois, ni mon livre, ni le rapport... ne met fin à l'histoire. Hein. On livre aussi au public, c'est très important. C'est l'idée que, voilà, c'est comme l'affaire Dreyfus, la Ligue des droits de l'homme, hein, et Emmanuel Naquet, qui est historienne de la Ligue des droits de l'homme, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle faisait pour convaincre donc les Français de l'essence du capitaine Dreyfus et de la conspiration contre l'État de droit? Eh bien, publiait. Et les comptes rendus in extenso des procès Zola, etc. Donc voilà, en fait, on fait de l'information, et je crois que c'est vraiment important. Et ensuite, effectivement, la qualification des faits par les juges n'est pas la même que celle des historiens.
Y a-t-il encore une question ? Eh bien, on va peut-être s'arrêter là. Je vais, avant d'applaudir Vincent Duclerc, qui le mérite bien, vous précisez une chose, c'est qu'il a souhaité offrir un exemplaire à ses invités. Donc j'ai avec moi une liste, vous pouvez venir le réclamer auprès de moi et je vous le donnerai bien volontiers. Mon collègue est à la caisse là-haut, a aussi des livres et la fameuse liste. Donc si vous voulez faire dédicacer, autant le retirer auprès de moi. Si vous ne souhaitez pas le faire dédicacer, mais l'avoir quand même, il sera aussi disponible là-haut. Voilà, et donc merci beaucoup d'avoir été présent ce soir et merci à Vincent Duclerc pour ce livre et puis pour tout son travail. Passer à une séance de dédicace pour ceux qui ont envie. Les livres de Vincent sont ici.